Brusquement, Lupin se rappela l'objet que Gilbert avait mis dans sa poche après l'avoir repris à Vaucheray. À son tour, il voulut s'en saisir.
« Ah, ça, jamais !»
grinça Gilbert qui parvint à se dégager. Lupin le terrassa de nouveau. Mais subitement, comme deux hommes surgissaient à la fenêtre, Gilbert céda et, passant l'objet à Lupin qui l'empocha sans le regarder, murmura
« Tenez, patron, voilà, je vous expliquerai. Vous pouvez être sûr que... »
Il n'eut pas le temps d'achever. Deux agents et d'autres qui les suivaient et des soldats qui pénétraient par toutes les issues arrivaient au secours de Lupin. Gilbert fut aussitôt maintenu et lié solidement. Lupin se releva.
« Oh, ah, ce n'est pas dommage. Le bougre m'a donné assez de mal. J'ai blessé l'autre, mais celui-là... »
En hâte, le commissaire de police lui demanda.
« Vous avez vu le domestique? Est-ce qu'ils l'ont tué ?»«
Je ne sais pas. »«
Vous ne savez pas ?»«
Dame, je suis venu d'Enghien avec vous tous à la nouvelle du meurtre. Seulement, tandis que vous faisiez le tour à gauche de la maison, moi je faisais le tour à droite. » Il y avait une fenêtre ouverte. J'y suis monté au moment même où ces deux bandits voulaient descendre. J'ai tiré sur celui-ci, il désigna Vaucheray, et j'ai empoigné son camarade.
Comment eût-on pu le soupçonner? Il était couvert de sang. C'est lui qui livrait les assassins du domestique. 10 personnes avaient vu le dénouement du combat héroïque livré par lui. D'ailleurs, le tumulte était trop grand pour qu'on prît la peine de raisonner ou qu'on perdît son temps à concevoir des doutes. Dans le premier désarroi, les gens du pays envahissaient la villa. Tout le monde s'affolait. On courait de tous côtés, en haut, en bas, jusqu'à la cave. On s'interpellait, on criait. Et nul ne songeait à contrôler les affirmations si vraisemblables de Lupin. Cependant, la découverte du cadavre dans l'office rendit au commissaire le sentiment de sa responsabilité. Il donna des ordres à la grille, afin que personne ne pût entrer ou sortir. Puis, sans plus tarder, il examina les lieux et commença l'enquête. Vaucheray donna son nom. Gilbert refusa de donner le sien, sous prétexte qu'il ne parlerait qu'en présence d'un avocat. Mais comme on l'accusait du crime, il dénonça Vaucheray, lequel se défendit en l'attaquant, et tous deux péroraient à la fois avec le désir évident d'accaparer l'attention du commissaire. Lorsque celui-ci se retourna vers Lupin pour invoquer son témoignage, il constata que l'inconnu n'était plus là. Sans aucune défiance, il dit à l'un des agents
« Prévenez donc ce monsieur que je désire lui poser quelques questions. »
On chercha le monsieur. Quelqu'un l'avait vu sur le perron allumant une cigarette. On sut alors qu'il avait offert des cigarettes à un groupe de soldats et qu'il s'était éloigné vers le lac en disant qu'on l'appela en cas de besoin. On l'appela. Personne ne répondit. Mais un soldat accourut. Le monsieur venait de monter dans une barque et faisait force de rame. Le commissaire regarda Gilbert et comprit qu'il avait été roulé.
« Qu'on l'arrête! Qu'on tire dessus! C'est un complice !»
Lui-même s'élança, suivi de deux agents, tandis que les autres demeuraient auprès des captifs. De la berge, il aperçut à une centaine de mètres le monsieur qui, dans l'ombre, faisait des salutations avec son chapeau. Vainement, un des agents déchargea son revolver. La brise apporta un bruit de parole. Le monsieur chantait tout en ramant.
Va, petit mousse, le vent te pousse. Va, petit mousse, le vent te pousse.
Mais le commissaire avisa une barque attachée au môle de la propriété voisine. On réussit à franchir la haie qui séparait les deux jardins, et après avoir prescrit aux soldats de surveiller les rives du lac et d'appréhender le fugitif s'il cherchait à atterrir, le commissaire et deux de ses hommes se mirent à sa poursuite. C'était chose assez facile, car, à la clarté intermittente de la lune, on pouvait discerner ses évolutions et se rendre compte qu'il essayait de traverser le lac en obliquant toutefois vers la droite, c'est-à-dire vers le village de Saint-Gratien. Aussitôt d'ailleurs, Le commissaire constata que, avec l'aide de ses hommes, et grâce peut-être à la légèreté de son embarcation, il gagnait de vitesse. En 10 minutes, il rattrapa la moitié de l'intervalle.
« Ça y est, nous n'avons même pas besoin des fantassins pour l'empêcher d'aborder. J'ai bien envie de connaître ce type-là. Il ne manque pas d'un certain culot. »
Ce qu'il y avait de plus bizarre, c'est que la distance diminuait dans des proportions anormales, comme si le fuyard se fût découragé en comprenant l'inutilité de la lutte. Les agents redoublaient d'efforts. La barque glissait sur l'eau avec une extrême rapidité. Encore une centaine de mètres tout au plus, et l'on atteignait l'homme.
« Halte !»
L'ennemi, dont on distinguait la silhouette accroupie, ne bougeait pas. Les rames s'en allaient à volo. Et cette immobilité avait quelque chose d'inquiétant. Un bandit de cette espèce pouvait fort bien attendre les agresseurs, vendre chèrement sa vie et même les démolir à coups de feu avant qu'ils ne puissent l'attaquer.
« Rends-toi !»
La nuit était obscure à ce moment. Les trois hommes s'abattirent au fond de leur canot, car il leur avait semblé surprendre un geste de menace. La barque, emportée par son élan, approchait de l'autre.
« Nous n'allons pas nous laisser canarder. Tirez dessus. Vous êtes prêts ?»
Et il cria de nouveau.
« Rends-toi ! Sinon !»
Pas de réponse. L'ennemi ne remuait pas.
« Rends-toi ! Bats les armes ! Tu ne veux pas ! Alors tant pis ! Je compte ! 1, 2... »
Les agents n'attendirent pas le commandement. Ils tirèrent et aussitôt, se courbant sur leurs avirons, donnèrent à la barque une impulsion si vigoureuse qu'en quelques brassées, elle atteignit le but. Revolver au poing, attentif au moindre mouvement, le commissaire veillait. Il tendit les bras.
« Un geste, et je te casse la tête !»
Mais l'ennemi ne fit aucun geste. Et le commissaire, quand l'abordage eut lieu et que les deux hommes, lâchant leurs rames, se préparèrent à l'assaut redoutable, le commissaire comprit la raison de cette attitude passive. Il n'y avait personne dans le canot. L'ennemi s'était enfui à la nage, laissant aux mains du vainqueur un certain nombre des objets cambriolés, dont l'amoncellement, surmonté d'une veste et d'un chapeau melon, pouvait à la grande rigueur, dans les demi-ténèbres, figurer la silhouette confuse d'un individu. À la lueur d'allumettes, on examina les dépouilles de l'ennemi. Aucune initiale n'était gravée à l'intérieur du chapeau. La veste ne contenait ni papier ni portefeuille. Cependant, on fit une découverte qui devait donner à l'affaire un retentissement considérable et influer terriblement sur le sort de Gilbert et de Vaucheray. C'était, dans une des poches, une carte oubliée par le fugitif. La carte d'Arsène Lupin. À peu près au même moment, tandis que la police, remorquant le vaisseau capturé, continuait de vagues recherches, et que, échelonnés sur la rive, inactifs, les soldats écarquillaient les yeux pour tâcher de voir les péripéties du combat naval, le dit Arsène Lupin abordait tranquillement à l'endroit même qu'avait quitté 2 heures auparavant. Il y fut accueilli par ses deux autres complices, Grognard et Le Balu, leur jeta quelques explications en toute hâte, s'installa dans l'automobile, parmi les fauteuils et les bibelots du député Daubrecq, s'enveloppa de fourrure et se fit conduire par les routes désertes jusqu'à son garde-meuble de Neuilly, où il laissa le chauffeur. Un taxi le ramena dans Paris et l'arrêta près de Saint-Philippe-du-Roule. Il possédait, non loin de là, rue Matignon, à l'insu de toute sa bande, sauf de Gilbert, un entresol avec sortie personnelle. Ce ne fut pas sans plaisir qu'il se changea et se frictionna, car, malgré son tempérament robuste, il était transi. Comme chaque soir, en se couchant, il vida sur la cheminée le contenu de ses poches. Alors seulement, il remarqua, près de son portefeuille et de ses clés, l'objet que Gilbert, à la dernière minute, lui avait glissé dans les mains. et il fut très surpris. C'était un bouchon de carafe, un petit bouchon en cristal, comme on en met aux flacons destinés aux liqueurs. Et ce bouchon de cristal n'avait rien de particulier. Tout au plus, Lupin observa-t-il que la tête aux multiples facettes était dorée jusqu'à la gorge centrale. Mais en vérité, aucun détail ne lui sembla de nature à frapper l'attention. Et c'est ce morceau de verre auquel Gilbert et Vaucheray tenaient si opiniâtrement. Et voilà pourquoi ils ont tué le domestique, pourquoi ils se sont battus, pourquoi ils ont perdu leur temps, pourquoi ils ont risqué la prison, les assises, l'échafaud. Mon bigre, c'est tout de même cocasse. Trop là pour s'attarder davantage à l'examen de cette affaire, si passionnante qu'elle lui parut, il reposa le bouchon sur la cheminée et se mit au lit. Il eut de mauvais rêves. À genoux, sur les dalles de leur cellule, Gilbert et Vaucheray tendaient vers lui des mains éperdues et poussaient des hurlements d'épouvante.
« Au secours !
Au secours !
Au secours !
Au secours ! »
Mais malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas bouger. Lui-même était attaché par des liens invisibles. Et tout tremblant, obsédé par une vision monstrueuse, il assista aux funèbres préparatifs, à la toilette des condamnés, au drame sinistre.
« Oh, bigre !»
dit-il en se réveillant après une série de cauchemars.
« Oh, voilà de bien fâcheux présages. Oh, heureusement que nous ne péchons pas par faiblesse d'esprit. » Sans quoi, oh, nous avons là d'ailleurs près de nous un talisman qui, si je m'en rapporte à la conduite de Gilbert et de Vaucheray, suffira, avec l'aide de Lupin, à conjurer le mauvais sort et à faire triompher la bonne cause. Ah, voyons ce bouchon de cristal. »
Il se leva pour prendre l'objet et l'étudier plus attentivement. Un cri lui échappa. Le bouchon de cristal avait disparu.